aux 400, hein, à les entendre. Et les hommes en particulier. Il n'y a pas de raison. Parce que il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Les dames sont d'accord? Vous avez intérêt. Voilà. L'important, c'est de la conviction qu'on fait passer et le cœur avec lequel on chante autant que la voix. Un chant ne se chante pas. Il s'interprète. Et il communique, quand il est bien compris, un message et un esprit. Voilà. Avant d'aborder le dernier sujet de cette série de réunions, il faut quand même que c'est géré, je le rappelle. C'est un vaste sujet qui concerne tout un chacun, comme je l'ai dit, qui n'est pas seulement réservé à des personnes qui auraient eu une vie tragique. C'est un sujet qui concerne tout individu, parce que la Bible dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, Dieu, quand il accepte de prendre en charge un homme ou une femme, le refait. Il le refait dans sa conception des choses, il le refait dans sa mentalité, il le refait dans son état d'esprit, il le guérit. Il le guérit. Maintenant, il arrive, en fonction du vécu de tout un chacun, qu'il y ait eu des accidents de la vie, des drames. Ce qui fait que, pour cette dernière réunion, je vais m'appliquer à essayer de vous montrer trois directions un peu plus pointues, précises, de l'action de Dieu en forme de guérison intérieure. Peut-être que vous attendiez à cela dès le premier jour. Je n'ai pas pris la question par cet angle, mais je vais terminer avec cet angle. Je voudrais vous proposer d'abord de lire un verset, Colossiens chapitre 2, verset 10. Un verset de présentation, Colossiens chapitre 2, verset 10. Voilà, je lis, il est projeté, vous pouvez le lire. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je me contenterai de la première partie du verset. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Je répète, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est lui notre guérison. Et peut-être que l'erreur que certaines personnes commettent, ça va vous sembler peut-être paradoxal, c'est de chercher la guérison. Je m'explique. Quelquefois, on est tellement blessé, meurtri, quelque part, qu'on fait une fixation sur ce qui nous est arrivé, et on fixe les prières, on fixe même les lectures qu'on fait, on fixe même la sélection des prédications que l'on veut entendre en fonction de ce dont on souffre. On se fixe là-dessus. Or, Jésus n'a pas dit « Cherchez premièrement votre guérison et toutes choses vous seront données par-dessus. » Mais il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. » Autrement dit, nous avons tout en Jésus-Christ. Et la personne qui découvre le Seigneur, qui l'accepte comme son sauveur, qui vit en relation avec lui, se trouve refaite, comme je le disais au commencement, elle se trouve reconstruite si belle et si bien qu'à un moment donné, même des choses pour lesquelles elle n'aurait pas prié se trouvent résolues. Ne croyez pas que Dieu ait absolument besoin que l'on fasse la liste de tous nos problèmes, la liste de toutes nos souffrances, la liste de toutes nos blessures pour les grainer et les énumérer devant lui pour qu'il puisse prendre soin de nous. Ce n'est pas vrai. En fait, il nous prend en charge, comme je le disais ce matin. Il prend en compte notre souffrance, il accepte notre démarche de conversion, et à partir de là, il fait un travail en nous, et tout à coup, peut-être, nous apercevons que les choses qui nous faisaient souffrir ont disparu, sans même que on s'y soit attaqué. Je voudrais donc vous présenter trois domaines, peut-être, dans lesquels il y a une résolution intérieure dans le cœur lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous venons à lui. La première, pour l'illustrer, je vais vous la présenter au travers de Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous lisons le verset 11 pour commencer. Livre de l'Exode chapitre 3, le verset 11. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit : Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je ne retiendrai de ce passage, de cette conversation, de ce dialogue entre Moïse et Dieu, qu'une question. Moïse dit à Dieu, qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelqu'un a augmenté la question en disant qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Qui suis-je? J'appellerai cela le problème de notre identité. Même le problème de nos racines. Nous avons tous des racines. Et j'ai remarqué que depuis qu'il y a l'Europe, il n'y a jamais eu autant de retours aux cultures régionales et locales. Avez-vous remarqué cela? Et c'est comme un phénomène qui fait que l'être humain se perd un peu dans tout ce qui est trop grand et il a besoin de retrouver quelque part ses racines. Et souvent, disons-le, on est fier d'être ce qu'on est. Quant à nos racines, ceux qui sont provençaux ici sont fiers de l'être. Je ne sais pas combien il y en a. Combien y en a-t-il de provençaux? Ah, quand même, il y en a. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde multiculturel, multi-origine, ça tourne, la population. Mais c'est plus fort que nous. Nous aimons savoir d'où nous venons. D'où nous venons. D'où est-ce que nous venons? Quelles sont nos racines? Quelle est notre identité? Par exemple, avant de revenir à Moïse, je vais vous dire quelques mots sur David. Le deuxième roi d'Israël, personnage dont la vie remplit beaucoup de pages de la Bible, à un moment donné, il est écrit, David eut un désir. David eut un désir. Et quel était ce désir? En avez-vous de temps en temps? C'est en rapport avec quoi? Je dirais peut-être, dis-moi quels sont tes désirs et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu désires et je te dirai qui tu es. C'est pas dans la Bible, mais c'est quand même un peu vrai, quelque part. Savez-vous ce qu'il désirait, David? Voilà, il voulait boire. Pas du rosé de Provence? Peut-être que, si vous aviez été à sa place, déraciné quelque part, hein, et étant provençaux d'origine, vous vous seriez dit, qui me fera boire un bon petit rosé de Provence? Moi, j'aurais dit peut-être, qui me fera boire un bon cidre de Normandie? Et quand j'ai vu que vous aviez aussi des pommiers pour faire du cidre, je me suis dit, ça, ils n'ont pas le droit. Les pommiers, le cidre, c'est que pour les Normands. Quant aux Bretons qui en font aussi, il faut qu'ils sachent que le Mont-Saint-Michel, il n'est pas en Bretagne, mais en Normandie. Vous le savez, ça? Oui, mais comme je suis normand, je précise. Vous voyez, il faut quand même être fier de ses origines. Et mon père, qui lui-même a voulu chercher à en savoir un peu plus, a découvert que dans nos racines, nous descendions d'une tribu de Finlandais ou de Danois, je ne sais plus trop, il faut que je regarde encore un peu les archives qu'il m'a laissées. Donc, on vient du Nord. On vient du Nord. On est des Normands. Mais David n'était pas Normand. Et à cause de ça, lui, il a parlé en fonction de ses racines, lui. Et il a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne? de la fontaine de la porte de Bethléem. Pourtant, il était en pleine guerre, il était dans une situation un peu dangereuse, et voilà, la première chose qu'il demande, c'est de l'eau de la citerne de Bethléem, parce qu'il n'est pas très loin de cet endroit, et quand il a vu le village, son cœur s'est ému, il s'est rappelé que c'est là qu'il était né, que c'est là qu'il avait été élevé, il s'est rappelé de ses racines, et quand il a vu que ce village était occupé par les Philistins, les ennemis d'Israël, encore en plus, il a été touché et il a eu un désir. Qui me fera boire de l'eau de la citerne de Bethléem? S'il était allé voir un psychanalyste, ou un psychologue, ou un psychiatre, il lui aurait dit, oui, vous exprimez là le désir de revenir à la source. Et quelque part, ça peut se comprendre, il avait la nostalgie. Radio-nostalgie. Ça existait déjà à l'époque. Radio nostalgie. Je reviens à Moïse. Qui suis-je? Qui était Moïse au fait, vous le savez? Parce que lui, il ne savait pas, mais peut-être que vous le savez. N'hésitez. Oui, c'est pas facile à définir. Premièrement, je vais dire que cette question n'est pas forcément à comprendre comme parfois on l'a comprise, c'est-à-dire comme étant l'expression de quelqu'un qui va avoir une mission à accomplir, mission impossible avant le film, et qui se demande s'il va être à la hauteur de la situation et qui dit à Dieu, qui suis-je? C'est pas vraiment ça. En fait, tout à coup, il a exprimé quelque chose qu'il n'avait jamais pu dire, c'est-à-dire quelle est mon identité? Parce que regardez bien son parcours. Je parlais ce matin, des enfances difficiles ou chaotiques, etc., etc. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on parle de plus en plus de ces choses, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et même les personnages de la Bible, que parfois on a un peu trop idéalisés, sur lesquels on a fantasmé, parce que oui, il y a des gens qui fantasment sur les personnages de la Bible, et qui se disent, ah, si j'avais été lui! Ou si j'avais été elle, eh bien, voulez-vous que je vous dise, si vous aviez été Moïse, peut-être que vous auriez pensé que vous auriez préféré être un autre. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. On voudrait être un autre. Il y a des gens à qui on a donné un prénom, qui n'aiment pas le prénom, qui veulent en changer. Parce qu'ils n'aiment pas ce prénom. Et c'est vrai que notre nom, c'est important. Les parents, d'ailleurs, entre parenthèses, faudrait bientôt se rappeler que celui qui portera le prénom, ce ne sera pas eux, mais sera leur enfant. Donc, attention quand même un peu au choix, parce qu'il y a parfois des choix un petit peu particuliers, du style pied-nickelé. Bon, alors attention, faut pas être ridiculisé, ni ridiculiser l'enfant. Mais les personnages, alors... Regardez par exemple un garçon comme Samuel. C'est un beau nom, Samuel. De toute façon, il y en a peut-être ici. Il y a des gens qui appellent leur enfant Samuel sans savoir que c'est un non-juif. Ou qui appellent leur enfant David sans savoir que c'est un non-juif. Moi, je connais quelqu'un qui est très antisémite. Et cette personne a appelé sa fille Rachel. Alors, elle ne le savait pas. Alors, quand j'ai su qu'elle s'appelait Rachel, j'ai dit, oh Rachel, quel beau nom, le nom est dans la Bible, ça veut dire brebis. Oh, j'ai vu le visage de la mère se décomposer, car elle ne savait pas, elle antisémite, qu'elle avait donné un prénom à sa fille qui est un prénom juif. Ah, la Samuel, c'est une belle histoire. Mettez-vous à sa place, quelques instants. Il est né dans les conditions de la Bible telles qu'elles sont décrites, et à peine est-il sevré qu'on le prend, on va le porter au lieu qui s'appelle la maison de Dieu. En fait, c'était là qu'était l'arche de l'alliance, l'objet le plus sacré de la foi d'Israël. On le met à côté d'un sacrificateur, un prêtre, si vous voulez, qui s'appelle Élie, qui est presque aveugle, qui a des fils délinquants, on le met là, et on repart. et on vient le voir une fois par an. Une fois par an. On lui apporte une nouvelle robe une fois par an. La robe, la tenue des sacrificateurs. Il y a de quoi être traumatisé, non ? Il y a de quoi dire, là, oui, vous avez un traumatisme dans votre enfance, et on va fouiller, et on va chercher. Or, on s'aperçoit que, en fait, pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, bon, Samuel ne vivait pas vraiment en Jésus-Christ, car Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre, mais je fais tout de suite une transposition. Pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas parce que des choses nous ont perturbés, des choses nous ont blessés, des choses nous ont tourmentés, que nous allons être condamnés à. Il y en a qui enferment les gens comme ça dans une fatalité à cause de leur enfance. Donc c'est fatal qu'ils deviennent délinquants, par exemple. C'est fatal qu'ils deviennent comme ci. C'est fatal qu'ils deviennent comme ça. Il se peut que ça arrive, mais ça arrive à d'autres, car il y en a qui deviennent délinquants sans avoir eu une enfance malheureuse. Alors ceux qui ont eu une enfance trop heureuse, ils se sont mis en réaction contre. Et alors vous comprenez, l'être humain est compliqué. Quant à Moïse, il était né dans des temps très difficiles. Tous les garçons étaient mis à mort. Il a échappé au massacre grâce à la foi de ses parents et à la foi de sa sœur. Il est recueilli par une princesse égyptienne qui l'élève comme son fils, mais qui fait venir une nourrice qui s'avère être la mère véritable de l'enfant. Arrivé à 40 ans, donc il ne sait pas trop de quel côté se situer. D'abord, pour lui, sa vraie mère ne se comporte pas comme sa mère, mais comme sa nourrice, et celle qui n'est pas sa mère, elle revendique le fait d'être sa mère. Un problème pour la DAS, hein. Et à 40 ans, donc, il est considéré comme un Égyptien vraiment à succès, un Égyptien vraiment renommé. D'ailleurs, on dit qu'il était bègue. Ce n'est pas vrai qu'il était bègue. Ce n'est pas vrai qu'il était bègue. Parce que la Bible ne dit pas qu'il était bègue. Il est dit qu'à un moment donné, il avait la langue embarrassée, mais parce que Dieu voulait l'envoyer tenir un discours divin. Lui, il n'était pas habitué au discours divin. Il avait été élevé dans la science des Égyptiens, pas pour faire des discours sur Dieu. Alors, il a eu la langue embarrassée, comme vous auriez peut-être la langue embarrassée si vous avez un corps de métier, puis on vous demande tout à coup de prendre la parole dans une autre discipline qui n'est pas la vôtre. En fin de compte, la Bible dit le contraire. La Bible dit, il devint un homme éloquent, un homme puissant en parole et en œuvre. Ce qui veut dire, dans d'autres traductions, un homme éloquent. Un homme éloquent. Moïse était éloquent, il n'était pas bègue. Bon, s'il avait été bègue, cela n'aurait pas diminué sa valeur, mais c'est pas vrai, ça c'est encore une idée reçue qui se promène et qui fait des émules, mais c'est pas tout à fait ça. Bref, pour résumer, enfance un peu spéciale, et puis pour sa nationalité, pour les Hébreux, c'est un Égyptien. Quand il a pris conscience d'être un Hébreu lui-même, pour les Égyptiens, il voit ça d'un mauvais œil. Lui, il frappe un Égyptien à cause d'une certaine situation, je résume. Il s'enfuit, il se retrouve dans une région qui s'appelle le pays de Madian. Il y reste 40 ans, il se marie, mais c'est pas ses racines. Et Dieu vient lui parler et il dit alors qui suis-je ? Je suis qui ? Il ne connaît pas sa véritable identité. Alors, comme je l'ai dit au début, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des problèmes comme ça qu'on ne peut pas résoudre par seulement, même le fait de retrouver ses racines. J'ai connu une personne qui a passé beaucoup d'années, beaucoup d'énergie à vouloir absolument retrouver sa mère. Elle l'a retrouvée. Puisqu'elle avait été, abandonnée, adoptée, enfin, toute une situation chaotique. Mais le jour où elle a retrouvé sa mère, ce fut la déception. Elle pensait résoudre tout son mal-être en retrouvant sa mère. Mais le jour où elle a retrouvé sa mère, le rêve s'est écroulé. Parce qu'elle avait fantasmé. Elle avait fantasmé là-dessus. Jésus-Christ, il n'y avait rien d'équivalent à ce qu'elle avait imaginé. Alors la réponse de Dieu par rapport à Moïse, où vais-je la trouver ? Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Je ne sais pas si vous voyez la correspondance qu'il y a entre la question et la réponse. La question était « Qui suis-je ?» Dieu lui a pas répondu. « T'es hébreu. » Dieu ne lui a pas dit « T'es égyptien. » Ou « Tu n'es ni l'un ni l'autre. » Dieu lui a dit « Quoi ? Je suis. » Et si vous prenez, même dans notre langue, la question et la réponse, vous avez comme un miroir, tu te demandes « Qui tu es ? Qui suis-je ?» Et la réponse est « Je suis. » Tu te demandes qui tu es, et Dieu répond, il est. Le nom de Dieu, qui certainement se prononçait Yahweh, je suis ce que je suis, c'était la réponse pour Moïse. Et Jésus, lorsqu'il est venu, a repris l'expression du nom divin. N'a-t-il pas dit, avant qu'Abraham fût, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le cep, etc., etc. Le nom divin, c'est je suis. La question humaine, c'est qui suis-je ? Et lorsque vous mettez celui qui se demande qui il est, en correspondance avec celui qui s'appelle « Je suis », je dis que là, il a trouvé ses racines. C'est un petit peu comme en termes d'électricité, pour prendre une mauvaise image. Vous avez la prise mâle et la prise femelle, et c'est au moment où vous faites entrer en correspondance les deux prises que le courant passe et que les appareils fonctionnent. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Que l'on soit à la recherche de ses racines humaines ou pas, à un moment donné, on a besoin de savoir quand même d'où l'on vient et à qui nous appartenons vraiment. Et c'est là que la réponse se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ qui s'appelle lui aussi « Je suis ». « Je suis ». C'est pourquoi ce serait une erreur de vouloir résoudre les questions intérieures concernant ce qu'on appelle le mal-être ou le fait, attendez, que je le dise, c'est peut-être un peu trivial, mais le fait d'être mal dans sa peau, c'est à tort qu'on essaie de résoudre cela uniquement humainement. Je me sens mal dans ma peau. Savez-vous pourquoi parfois nous nous sentons mal dans notre peau ? C'est parce que, en fait, nous ne sommes pas appelés à vivre vraiment dans notre peau. Mais nous sommes appelés à vivre dans la peau d'un autre. Qui ? Jésus-Christ. Parce que regardez comment les gens font. Ils aiment s'identifier, quand j'ai parlé de la peau d'un autre, ben ils aiment s'identifier à la peau d'un autre. Par exemple, vous avez un phénomène actuel, c'est les sosies. Les sosies. Comme disait un jour un artiste, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un vient le voir, un admirateur, et lui dit « Qu'est-ce que vous ressemblez à votre sosie ?» Et déjà, c'était inversé un peu. Hein. « Qu'est-ce que vous ressemblez à votre sosie ?» S'identifier. On veut s'identifier à des artistes, à des idoles, à des héros, à des Superman, à des Superwoman. Et on espère qu'en s'identifiant à ces gens, en s'identifiant à leur style, à leur coiffure, à leur costume, à leur musique, à leur philosophie, ça va aller. Mais quelle désillusion ! Nous sommes appelés à vivre, oui, dans la peau de Jésus, sens propre et figuré, parce que lorsque l'homme et la femme désobéirent à Dieu, et qu'ils découvrirent avec angoisse qu'ils étaient nus, Dieu les a fait habiter dans la peau d'un autre, Dieu les revêtit d'habits de peau, issus d'un animal sacrifié pour eux, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se sentir mieux, à se sentir bien, bien dans leur peau, non pas la leur, parce que ce n'était pas la leur. Vous devez vivre en Jésus-Christ, vous sentir en Jésus-Christ. Le reste, finalement, deviendra très relatif, car c'est lui seul qui est capable de vous donner votre identité. Deuxième direction, 1 Rois chapitre 17, verset 17. Deuxième problème, si vous voulez, deuxième question. Après celle de l'identité, voilà une deuxième question dont il faut parler parce que je crois qu'elle est beaucoup plus présente dans la vie des gens qu'il n'y paraîtrait. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Voilà une femme qui a un problème intérieur. D'abord, elle a un problème visible. On peut laisser afficher. Hein. Le problème visible qu'elle a, c'est la perte d'un enfant. C'est terrible de perdre un enfant. C'est une souffrance. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça, parce que c'est un peu contre nature que l'on perde ses parents un jour. C'est difficile, mais on se dit, bon, ben c'est la vie. C'est ainsi. Perdre un enfant. Ça, c'est la situation. Mais la situation va servir de révélatrice. Vous savez, parfois, il y a des choses qui arrivent. Et les choses qui arrivent servent de révélateur par rapport à d'autres choses qu'on n'a jamais voulu faire sortir avant de notre cœur. Je vais prendre un exemple d'un homme, un jour, qui, après avoir raconté, n'est-ce pas, tout un passé de déporté, tout un tas de choses, de souffrances, il s'entendit dire par son ami à qui il avait parlé, « Ton problème, c'est Adolf Hitler. » L'homme de dire, mais non, mais Adolf Hitler, il est mort. Et de s'entendre répondre, non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort dans ta vie. Parce que tous les sévices que tu as subis à cause de lui te tourmentent encore. Et bien là, c'est un peu pareil. Dans le principe. Car cette femme, voyant arriver le prophète, ne lui dit pas, bienvenue, homme de Dieu. Je suis vraiment content de ta visite. Tu as bien fait de venir et de prendre en considération mon chagrin. Non, elle n'a pas dit ça du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, elle va l'agresser. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Elle l'appelle quand même homme de Dieu, mais par politesse. Elle l'agresse. Vous savez que l'agressivité, c'est quand même un des mots du siècle. Mais enfin, c'est quand même pas nouveau. Les gens sont agressifs. Avez-vous déjà rencontré des gens agressifs? C'est ma première question. Ma deuxième, c'est, avez-vous vous-même été agressif? Parce que parfois, n'est-ce pas, on voit les choses qu'à sens unique. Par exemple, on voit les gens qui nous ont fait du mal, mais on ne se rend pas compte qu'on a peut-être fait du mal. On voit les gens qui nous ont blessés, mais on ne se rend pas compte que peut-être aussi on a blessé quelqu'un. C'est possible. On voit les gens qui ont été injustes, mais on ne voit pas le fait qu'on a peut-être aussi été injuste. Donc la question est, parce que sinon ça ne va pas vous aider, la question est, vous arrive-t-il d'être agressif? C'est ça la vraie question, parce que de savoir si les autres le sont, c'est une vérité de toute façon à laquelle on ne peut dire que oui, ils sont agressifs, mais des fois on l'est aussi. Alors ça arrive à tout le monde, pourquoi sommes-nous agressifs? lorsque notre nature nous pousse à l'être. Vous savez que nous ne sommes pas bons. Et l'agressivité, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. On peut prendre des cours de perfection à la rigueur, ou de perfectionnement, mais à la base, personne n'a appris à l'être humain à devenir agressif. C'est dans la nature. Mais quelquefois, l'agressivité cache une souffrance. Et c'est un réflexe d'autodéfense. Il y a des gens qui se protègent en devenant agressifs. Ils pleurent avant d'être battus. Ils tirent les premiers. Alors que les autres venaient peut-être avec des dispositions bienveillantes. Et l'agressivité peut produire beaucoup de dégâts. Des dégâts dans les relations, des dégâts dans le foyer, des dégâts dans le couple. C'est terrible, n'est-ce pas, si les époux se mettent à s'accueillir avec agressivité. C'est terrible quand on ne peut pas se parler avec affection, avec calme, avec pondération. C'est toujours avec agressivité. Il y avait par exemple les frères de David. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. C'était plus fort qu'eux, il fallait qu'ils l'agressent à chaque fois. Et pourquoi est-ce qu'ils l'agressaient? Parce qu'ils étaient jaloux en fait. Et donc ils laissaient paraître leur jalousie par de l'agressivité. L'agressivité. Et elle, pourquoi est-ce qu'elle est agressive? Parce qu'elle a un problème de culpabilité. C'est pour ça. Car elle dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et faire mourir mon fils? Alors, non seulement elle est agressive, mais elle est accusatrice. Mais dans son souvenir, il y a la mémoire d'une iniquité, une faute. Et automatiquement, elle fait un rapprochement entre quoi et quoi ? Entre sa faute et la mort de son fils. Comme je disais ce matin, la crainte suppose un châtiment. On est en plein dedans. Elle suppose que si son fils est tombé malade et qu'il est mort, c'est à cause du fait que elle, la mère, a commis une iniquité. Eh bien, je crois devoir quand même dire que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne punit pas les enfants à cause des parents. Il ne transmet pas la malédiction d'une manière injuste de l'un sur l'autre. Je sais, et on ne peut pas le développer cet après-midi, qu'il y a des doctrines, même dans les milieux chrétiens évangéliques, qui circulent sur la nécessité pour les enfants de confesser les péchés des parents pour arriver à la libération, non seulement des parents, mais des grands-parents. N'est-ce pas, quand j'ai à Bordeaux, il y a eu à un moment donné l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et malheureusement, les Bordelais, certains Bordelais, se sont enrichis grâce à l'esclavage, car Nantes et Bordeaux ont été des ports desquels sont partis, hélas, beaucoup d'esclaves venant d'Afrique pour aller vers les Antilles ou d'autres horizons. Et alors des groupes un peu fanatiques sont allés sur les quais de Bordeaux pour demander pardon pour Bordeaux, pour chasser les esprits mauvais qui pouvaient encore là, n'est-ce pas, être ancrés sur les quais. Je dis, ne vous laissez pas avoir à ces doctrines qui n'ont que l'apparence de la spiritualité, mais qui en fait n'ont rien de spirituel. Dieu ne se venge pas. Dieu ne se venge pas sur les enfants de ce que les parents ont fait. Ah, me direz-vous, il est écrit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, 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 mais je vais vous dire pourquoi c'est écrit dans la Bible. Dieu se réserve la vengeance parce que si jamais c'était nous qui l'exercions, ce serait terrible. Alors il dit, laissez-moi faire en la matière, hein. Laissez-moi faire. Mais le drame, comme je parlais ce matin de l'image de Dieu, le drame c'est que souvent l'être humain projette, même le chrétien, projette sur Dieu ce qu'il est lui-même. Et il attribue à Dieu les sentiments qu'il a lui-même. Et il y a des gens qui se sont fait un Dieu à leur image, à leur ressemblance. Par exemple, si eux-mêmes, ils ont des tendances, un peu, comme je disais ce matin, psychorigides, si vous avez trouvé, vous cherchez, vous avez peut-être trouvé la signification, eh bien, ils imaginent Dieu comme ça. D'autres ont des tendances racistes, ils imaginent que Dieu est raciste, et ils font toute une théorie, même à partir de la Bible, sur la justification du racisme et de l'eugénisme. Vous savez ce que c'est, l'eugène, Eugène. Vous appelez Eugène ? Moi, je crois que je m'appelle Eugène dans mon deuxième prénom. Et Eugène, E, ça veut dire bon en grec, gène, celui qui a le bon gène. Le bon gène. L'eugénisme, donc, c'est le fait de décréter que certaines races ont le bon gène. Non, mais vous voyez où ça amenait. Et puis le ceinturon, Gott mit uns, Dieu avec nous. En plus, Dieu avec nous. Parce que les hommes, par leur religion, ont projeté sur Dieu leur propre mauvais cœur. Et ils ont imaginé que Dieu était comme eux, méchant, dur. Mais non, Dieu n'est pas comme les hommes. Et il ne punit pas les enfants à cause des parents. Malheureusement, ce qui arrive parfois, c'est que les parents qui ont une mauvaise conduite font payer à leurs enfants le fruit de leur vie déréglée. Et ça, c'est une autre question. C'est pas Dieu qui punit, c'est pas Dieu qui frappe, c'est pas Dieu qui sanctionne. C'est le fait que, hélas, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais elle est là dans son souvenir une culpabilité. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ou bien, elle a vraiment fait une faute dans son passé, je ne sais pas laquelle, et elle ne l'a jamais résolue, réglée, donc c'est pas réglé. Ou bien, elle l'a réglée, elle a demandé pardon à Dieu, on va dire les choses comme ça, donc Dieu lui a pardonné, mais sous l'effet de la pression, de l'épreuve, de la douleur, il y a une tentation qui se réveille, une tentation qui vient pour lui laisser supposer que, en fait, peut-être qu'elle n'est pas aussi pardonnée que ça. Et la preuve, regarde, si Dieu t'avait pardonné, ton enfant ne serait pas mort. Ah, ça c'est pervers, hein. Je vais dire, c'est le langage diabolique. Es-tu sûr que Dieu t'a pardonné? Et le mot guérison par rapport à ça, il est trop faible, laissez-moi le dire. On peut l'employer, il faut une guérison, d'accord, mais c'est trop faible. Je dirais, il faut une solution. Comment vient-elle la solution? Ben, d'abord, elle vient par le fait que on va devoir apprendre à connaître Dieu, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, se laisse avoir au piège des mensonges de l'accusateur. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons enseignés dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, afin qu'au moment de l'épreuve et de la tentation, quand tout à coup une idée nous traverse l'esprit mais qui n'est pas juste, et là, alors il faut pouvoir avoir la réplique, il faut pouvoir se défendre, il faut avoir les armes, les arguments, et ceux qui ne veulent pas se plonger dans la parole de Dieu, ils sont tout seuls pour se défendre. Ils savent pas se défendre. Ils se laissent accuser. Ils se laissent reprendre. Et puis après, c'est le commencement de la fin. C'est le début de la chute. Oui, mes frères et sœurs, il faut connaître la parole de Dieu pour vous défendre contre les accusations du diable. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, si jamais, alors que personne ne le sait, vous vous posez la question cet après-midi, si la souffrance que vous avez, c'est la conséquence de vos péchés, si la souffrance que vous avez, c'est la conséquence de vos péchés, je vais vous dire, résolvez la question de vos péchés et arrêtez de faire cette relation. Ça veut dire, si effectivement vous n'avez pas résolu une situation, résolvez-la. Si vous l'avez résolu et que Dieu vous ait donné le pardon, ne croyez pas qu'il l'a repris. Au lieu de recommencer à vous repentir de nouveau, non, dites merci Seigneur, car tu m'avais déjà pardonné ça. Et je vais même vous dire, à vous qui avez été baptisés, le jour où vous avez été baptisés, vous avez confessé le fait que vous aviez l'assurance du pardon de vos péchés, oui ou non ? Oui ? Est-ce que pour autant, ce jour-là, vous vous êtes souvenu de tous vos péchés ? Non ? Est-ce que vous avez fait la liste ? Non ? Est-ce qu'il fallait la faire ? Non ? Mais le jour où la mémoire se réveille et que dans le souvenir, un péché ressurgit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pas remettre les choses à zéro et dire « Bon, ben, je te demande pardon pour ça ». Non, il faut dire plutôt « Le jour, Seigneur, où tu m'as donné le pardon de mes péchés, il y avait celui-là dans le lot. Il a été pardonné. Il a été pardonné. C'est pas « Il le sera le jour où ». Non, il a été. Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Et la guérison, elle passe par l'assurance du pardon de ses péchés. Vous voyez, le premier soir, on a regardé les textes où Dieu disait, vous pensez à la légère la plaie de mon peuple. Il y a des gens qui pensent à la légère les choses. Mais ils font des pansements, mais c'est un peu léger. Mais ce qu'il faut chercher, c'est peut-être pas trop la guérison à tout prix. Qu'il faut chercher, c'est à s'enraciner dans la personne de Jésus, et il faut chercher à s'enraciner dans l'assurance du pardon de vos péchés, afin que quand la mémoire va se réveiller, vous ne tombiez pas dans le piège de vous culpabiliser de nouveau. Peut-être que vous avez été coupable, et même vous l'avez été. Et pour Dieu, vous avez été pardonné. C'est important, ça. Et c'est fou ce que la culpabilité vient nous travailler, parfois. Et puis, il y a d'autres culpabilités. Le sujet est trop vaste pour le développer entièrement, mais il y a d'autres culpabilités, comme par exemple, un jour, une jeune femme était vraiment, elle, en dépression, quoi. Parce qu'il y a dépression et dépression. Quand on parle de dépression, c'est pas un petit moment de cafard, hein, mais il y a la dépression médicalement, comment diagnostiquer, qui est vraiment une maladie, quoi. Et puis donc j'étais à sa table avec son mari, et puis comme elle m'a dit, vous pourrez raconter partout ce que ça peut aider des gens. Bon. Alors donc je fais, elle dit voilà, à un moment donné elle me dit pourquoi êtes-vous, qu'est-ce qui se passe, elle me dit « Je suis responsable et coupable de la mort de mon frère. » J'ai dit « Expliquez-moi ça. » Elle dit « Voilà, mais un jour, il est venu chez moi, à moto. » Et puis, à un moment donné, il a eu le désir de partir, alors je l'ai laissé partir, et il a été tué sur la route. Donc, si je l'avais retenu, il serait pas parti tout de suite, et il serait pas mort. C'est ma faute! J'ai eu qu'une parole. Je dis, mais vous n'êtes pas coupable. Tout à coup, il y a une lumière qui s'est allumée dans son esprit, où elle a réalisé effectivement qu'elle était en train de se charger d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Je l'ai revu depuis. Ça va très bien. C'est parti comme ça. Et vous savez, ce problème de la culpabilité, il est terrible. Hein, il y a des enfants qui se culpabilisent du divorce de leurs parents. Parce qu'il y a le vécu du divorce du côté des parents. Mais il y a le divorce du côté des enfants. Il y a des enfants qui se disent, pourquoi vous vous séparez ? C'est à cause de moi ?
parce que eux, dans leur esprit, ils n'ont pas du tout la notion des problèmes d'adultes. Alors, ils se culpabilisent de ça. C'est terrible, hein ? D'autres qui se culpabilisent d'avoir eu un enfant handicapé. C'est terrible, un enfant handicapé. Non seulement on a un enfant handicapé, mais on se culpabilise. Voir les autres nous aide à nous culpabiliser. Je voudrais vous inviter ce soir à laisser tomber les culpabilités fausses. La culpabilité, elle existe. C'est le péché. Mais la souffrance n'est pas une culpabilité. Ce qui arrive aux autres, c'est pas de notre faute. On peut pas se charger de tout ce qui arrive aux autres et s'en sentir coupable et responsable. C'est pas possible, c'est invivable. Faut laisser ça. Afin, comme cette femme, de ne pas être là en train d'être agressive et de charger, et de se charger, en fait, de la responsabilité d'un décès dont elle n'est ni coupable ni responsable, et en plus, de rejeter les autres. Et je vais finir par un passage que j'ai juste évoqué dans les jours que nous avons eus ensemble. Je vais juste l'évoquer. Et je crois que la vraie guérison, quelque part, elle est là aussi. 2 Samuel, chapitre 9, dernier verset. Je l'ai évoqué, vous allez vous en rappeler, je pense. 2 Samuel, chapitre 9, verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Étiez-vous là quand j'en ai un peu parlé déjà, peut-être ? Vous savez que le mot Méphibosheth a une racine hébraïque, c'est le mot bochette qui veut dire la honte. La honte. C'est dur à porter la honte. La question est comment être guéri de la honte. Il y a des hontes justifiées parce que celui qui a fait ce qui est mal devrait avoir honte. Et le drame des êtres humains, c'est qu'ils n'ont pas honte de ce dont ils devraient avoir honte, mais ils ont honte de ce dont ils ne devraient pas avoir honte. Qu'on ait honte d'être menteur, c'est juste. Qu'on ait honte d'être malade, ce n'est pas juste. Ce garçon traînait un boulet terrible. À 5 ans, son grand-père s'est suicidé. Son père a été tué à la guerre. Sa nourrice l'a pris. Et puis elle l'a laissé tomber. Il est resté infirme et boiteux. Il est parti pendant plusieurs années loin parce qu'il craignait la vengeance du roi David qui avait pris le pouvoir après tous ces événements. Et il craignait ça. Et puis un jour David l'a envoyé chercher. Enfin, je passe parce que là, il faudrait toute une prédication pour cette histoire qui est une belle histoire. Il l'a fait venir. Alors, il était là. Il était mort de peur parce que là encore, la crainte suppose un châtiment. Il se disait, hop, on va me régler mon compte pour se venger de mon père et de mon grand-père. Mais non, rien de ça. David dit, je veux te faire du bien. Tu vas manger tous les jours à ma table. Alors bon, il l'accueille à sa table. Et puis, il y a ce dernier verset duquel je vous ai dit, j'ai mis un certain temps pour oser aller dans la prédication sur le personnage jusque-là. Parce que dans un milieu qui prêche la guérison divine, ça fait désordre dans le paysage. Enfin, je dis ça en caricature, ça ne devrait pas, mais pour certains esprits extrémistes, ne peuvent pas comprendre que ce gars-là est toujours boiteux. Et Dieu, il n'aurait pas pu le guérir. Je vais vous dire une chose, il est guéri. Il est guéri. Parce que le problème du handicap n'est pas que le handicap. C'est la manière dont on le vit, et puis il y a le regard des autres. Ah ben oui, c'est terrible parfois le regard des autres. Hein. Mais il suffit aussi que l'on vive mal quelque chose pour que le regard des autres, on l'attire. Et
il se peut qu'on ait parfois l'impression que tout le monde nous regarde, alors qu'en fait, les gens nous voient, mais ils n'ont pas fait attention. Par exemple, hein, peut-être que, n'est-ce pas, quelqu'un trouve que son nez est trop long. Sans s'appeler Pinocchio. Alors, dès que quelqu'un vous regarde, vous avez l'impression qu'il voit votre nez. Alors, vous faites du chantage à vos parents pour dire « il faut me payer la chirurgie esthétique ». C'est une réalité aujourd'hui, la chirurgie esthétique. C'est que plus ça va, plus on coupe, et plus on a coupé, plus il faudra couper. Et on a des visages maintenant qui sont des visages inexpressifs. Et moi, écoutez, excusez-moi, vous me le pardonnerez, mais quand je vois ces lèvres botoxées, non mais attendez, vous riez, mais c'est quand même terrible, parce que des fois c'est vraiment raté. Ça se voit. C'est pire. Et puis après, ben comment on fait après? Je ne sais pas si on peut faire l'opération inverse, je ne sais pas. Hein. C'est terrible, c'est un matraquage, une tyrannie médiatique sur les canons de la beauté. J'ai l'impression que tout le monde nous voit. Bon, ça, c'est présenté sous le ton de la plaisanterie. Peut-être que je ne le devrais pas, car pour la personne qui vit ces choses, c'est pas une plaisanterie, c'est important. Mais là aussi, il faut trouver une solution. Ben en fait, notre ami l'a éboîté. L'a éboîté, ben, je vais vous dire, on boite tous. On boite tous. D'une manière ou d'une autre, on a tous notre infirmité. Alors, ou bien on va chercher la perfection physique, je sais pas moi, mentale ou n'importe quoi, à un tel degré qu'on va jamais y arriver, on va toujours être malheureux, hein, torturé. Ou bien on va se suffire d'être à la table du Seigneur, comme Mephibosheth était à la table de David. On va se nourrir de la parole de Dieu, on va. Et puis en fait, le handicap, il sera là. Ben, oui, ben il est là, toi t'as le tien, moi j'ai le mien. Match nul, égalité, fraternité. C'est pas un problème. Il assume. Il assume. Je pense que la guérison, c'est assumer. C'est pas être débarrassé, toujours, de ce qui fait une cause éventuelle de souffrance ou de complexe. Il faut assumer. Il faut toujours assumer. C'est faire face et accepter, on est comme ça, on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez des choses à assumer, ben vous les assumez. Parce que si vous ne les assumez pas, même en priant, vous n'allez rien régler. Priez pour assumer. Priez pour accepter, ben, ce que vous êtes, quoi. Je parle pas du plan moral au sens de la moralité, il y a des choses qu'il faut pas accepter. Hein, si on est fourbe, escroc, faut pas l'accepter. Mais le reste, il faut faire avec. On est dans un monde qui est absolument intolérant. Et c'est quoi? C'est la presse people qui fait la loi et qui impose ses canons. Mais ça peut devenir une tyrannie, une tyrannie. On a besoin de guérison. Parce que hélas, ce que la presse people nous a montré en exemple, regardez hélas. Même si l'obsèque de cette chanteuse s'est faite dans une église baptiste, moi je suis quand même un peu interloqué de le peu que j'ai vu de la cérémonie funèbre. C'était un show, mais selon moi pas un service chrétien, quoique moi ça m'aurait pas dérangé de présider même un service funèbre, même de quelqu'un dont la vie n'a pas été exemplaire après avoir chanté les gospels. Comme quoi chanter les gospels, prenez bien ça mes frères et sœurs de la chorale, tu passes ça pour vous, mais comme quoi chanter les gospels dans son enfance, ça suffit pas, ça, chanter les gospels, mais tout le monde chante au happy day, tout le monde le chante au happy day, sans, et le happy day qui dit que Jésus revient, il chante ça en vivant dans la débauche. Donc ces vedettes qu'on nous montre là, mais non, mais faut pas vous identifier à eux. Hein. C'est du cinéma, ça. C'est pauvres gens, quoi, je dirais. Pauvres gens. Pauvres gens. Vous trouvez votre guérison en Jésus-Christ. Trouvez votre guérison en Jésus-Christ. Ne cherchez pas votre heure de gloire. Chacun veut son heure de gloire et de célébrité. Faut que je passe à la télé. Et les gens passent à la télé, ils racontent leurs histoires de couple, vraies ou inventées, j'en sais rien. Faut qu'ils se fassent voir à la télé. Et après, tous les voisins savent qu'ils sont passés à la télé. Quelle misère! Quelle misère! Seigneur, guéris-nous de ces tentations-là, de ces désirs de paraître. Et donne-nous d'être en toi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et le drame de cette chanteuse que je ne connais pas, j'ai juste entendu chanter, je me dis peut-être que le drame qu'elle a, ça doit poser question, n'est-ce pas, aux églises quand même, où chantent nos enfants, nos ados, et de voir qu'après, c'était pareil avec Elvis Presley, bien, ils en arrivent là, il y a quelque chose, quelque part, à un moment donné, qui a dû les mettre en rejet. Moi, je m'interroge. Peut-être que c'est pas ça, je me trompe. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils ont eu l'overdose. Nous devons, c'est hors sujet, mais ça me vient à l'esprit, alors je le dis. Nous devons protéger nos enfants, nos jeunes et nos artistes en ne faisant pas des vedettes. Trop tôt, surtout. Parce que les enfants prodiges, Dieu les met dans un couffin et il les cache. Attention, l'église n'est pas le lieu où l'on forge des vedettes du showbiz évangélique. L'église, elle fait des disciples. L'église, elle fait des disciples. Au temps de ma conversion, vous allez dire, je parle comme un dinosaure. Quand quelqu'un arrivait du showbiz, pas beaucoup, mais enfin ça arrivait, ou du sport professionnel, on lui disait, bon, ben c'est bien, tu restes dans les rangs, tu étudies la Bible, tu fais comme tous les chrétiens, t'es guitariste professionnel, très bien, eh ben tu mets la guitare dans ta boîte. On verra dans 3 ou 4 ans si tu es toujours fidèle au Seigneur. On verra. Et on laisse le temps à l'artiste, au footballeur, à la vedette, de laisser Christ se former en lui ou en elle. Et si on fait pas ça, c'est le commencement de la fin. Parents, n'élevez pas vos enfants dans la vanité évangélique. Faites des disciples. Apprenez-leur à être modestes. Et à marcher avec Dieu. Et à marcher avec Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Il a pu assumer ses blessures, Mephibosheth. C'est pas écrit, mais je me dis, il en a peut-être voulu à cette nourrice qu'il avait laissée tomber. Peut-être qu'il lui a pardonné. Alors, si vous êtes victime d'une situation,